Bonjour et bienvenue dans le podcast de l'Arc, Permanence Critique. Trois fois par an, nous publions une revue d'analyse critique et trois fois par an, les auteurs et leurs invités vous en parlent. Permanence Critique, le podcast.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier, en quelque sorte, numéro du podcast Permanence Critique. Aujourd'hui, on va s'intéresser au numéro 5 qui a été réalisé par Cécile Pierret qui est avec moi aujourd'hui.
Bonjour Raph.
Et alors pour ce podcast, on a l'honneur d'accueillir Pierre Ledecq qui est notamment formateur à la FEC. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Donc pour commencer ce podcast, je vais m'intéresser au titre du numéro qui est « Travail à distance, l'omniprésence numérique ». Donc « Travail à distance avec S ». Pourquoi ce titre ? Est-ce que tu peux expliquer un peu le contenu de ce numéro ?
Oui, bien sûr. Alors, moi l'idée du numéro, c'était de revenir sur un des aspects de la pandémie et des confinements que nous avons traversés. On sait que ces confinements ont chamboulé énormément le monde du travail de manière générale. Et notamment, ce qui a eu quand même comme événement majeur, c'est la mise au télétravail massive et obligatoire. Ça a été une obligation d'État pour des milliers de travailleurs de rester travailler à domicile. Et je pense que ça a été une expérimentation sociale à grande échelle, en réalité, et qui a amorcé un certain nombre de processus. Et je pense que, pour certains, ce sont des tendances qui ont été amorcées à long terme et qui transforment un certain nombre de...
Ça transforme un certain nombre de manières d'envisager le travail.
Voilà, ça a transformé la manière d'envisager le travail et l'organisation du travail dans pas mal d'entreprises, et d'ailleurs qu'elles soient privées ou publiques. Et alors, ce qui a été assez frappant, je pense, c'est que le télétravail s'est diffusé au sein de catégories de travailleurs très différents, dans des secteurs très différents, et notamment dans des secteurs où, avant ça, il aurait été en réalité inimaginable d'exercer ce travail à distance. Et c'est pour ça que j'utilise cette formule de travail à distance, qui, selon moi, ne se réduit pas non plus tout à fait au télétravail. Et j'entends par là, par exemple, l'enseignant qui a donné... Alors bien sûr, il a donné cours chez lui, mais en fait, ce qui est véritablement... particulier dans cette situation, c'est qu'il a travaillé, il a donné cours à distance des étudiants, de la même manière que le conseiller d'une mutuelle a travaillé à distance des agents, enfin des clients de cette mutuelle. On peut aussi parler de l'employé dans le guichet de banque. Voilà, et ça, c'est toutes des situations de travail, en fait, où on n'aurait pas pensé avant que ces métiers auraient pu s'exercer à distance. Et alors, je parle de distance au pluriel, aussi parce que il y a plusieurs choses qui sont mises à distance, en fait. Et ça varie selon les situations de travail aussi. Mais on peut mettre en avant le fait que ce soit un travail qui a réalisé soit à distance des usagers, à distance du manager, à distance des collègues, etc., etc. Et donc ça s'applique. C'est aussi une formule que j'ai utilisée pour créer, pour susciter la comparaison entre des situations de travail très différentes, et d'ailleurs que ce soit réalisé au domicile ou ailleurs, parce qu'il y a quand même une tendance vers ce brouillage, en fait, entre, je pense, entre le télétravail et cette vision d'un travail qui pourrait être effectué n'importe où, n'importe quand. Et il me semblait que c'était intéressant qu'on en parle, parce que depuis cette période de mise au travail obligatoire, il y a très clairement une stabilisation à la hausse du télétravail. Et c'est un sujet qui est abordé, je pense, maintenant partout, que ce soit dans les entreprises privées ou dans les administrations publiques, où le télétravail est aussi de plus en plus envisagé comme une manière de réduire des coûts fixes Et évidemment, en premier lieu, les surfaces immobilières. Voilà. Donc ça, c'était c'est le constat de base que je voulais interroger. Et j'ai décidé d'aborder ce sujet en mettant en avant des processus qui, je pense, sont pas assez mis en avant globalement dans les débats médiatiques et politiques. C'est que derrière ce télétravail ou derrière ce travail à distance, on assiste en fait à une extension de l'économie numérique, une extension de l'utilisation d'outils digitaux qui sont dans les mains de majors du numérique, ce qu'on appelle plus souvent les GAFAM.
Donc tu appelles ça l'économie numérique, qu'est-ce que tu entends par là exactement ?
C'est un concept qui est quand même défini de manière assez différente, et des auteurs s'y réfèrent pour des raisons différentes. Je pense que de manière générale, on peut dire que l'économie numérique, c'est une économie qui exploite une série de logiciels, d'objets de communication, qui exploite toute une nouvelle génération de réseaux, de machines, l'intelligence artificielle, etc. Donc voilà, tout bêtement, les applications, les réseaux sociaux, Internet, les ventes et les services en ligne, etc. Donc toutes des activités, des secteurs qui mobilisent du travail aussi et des travailleurs pour fonctionner. Et ce que moi je veux mettre en avant dans cette expression, dans ce concept d'économie ou de capitalisme numérique, c'est que, bien sûr, ce ne sont pas que des outils technologiques, justement.
C'est aussi des outils de transformation, c'est ce que tu dis dans l'étude.
Voilà, ce sont des outils de transformation sociale, productive, idéologique. Je présente notamment le fait que il y a un modèle économique, effectivement productif, qui est spécifique à l'économie numérique et qu'elle tend à imposer à des nouveaux secteurs. Et il y a évidemment des nouvelles captures de données qui créent des nouvelles formes d'exploitation et des nouvelles sources de profit possibles. Alors par exemple, dans le fait que l'économie numérique amène un nouveau type de modèle productif, bon, je crois que c'est très clair dans la manière dont ces outils digitaux sont utilisés pour se passer en fait du lieu physique de l'entreprise, puisque de plus en plus, et bon, ça c'est pas que lié, c'est des transformations qui ont lieu depuis plus longtemps et depuis avant la pandémie, mais en gros, on passe quand même de plus en plus à des entreprises qu'on appelle des entreprises liquides ou des entreprises allégées, soit des structures d'entreprises qui sont beaucoup plus fluides, fragmentées et qui emploient la main-d'œuvre de manière beaucoup plus flexible. Et ce que je trouvais intéressant, c'était de voir que au fond, le télétravail s'inscrit aussi là-dedans. Parce que ça s'inscrit dans cette tendance où le capital peut exploiter le travail tout en se passant de l'entreprise. Et donc en se passant aussi de ce qui se passe dans une entreprise, c'est-à-dire les possibilités de négociation, de concertation, et donc en lieu aussi de contre-pouvoir, en fait, par rapport aux décisions de l'employeur. Et donc, bien sûr, le modèle économique le plus frappant, c'est le modèle de la plateforme, tel que Uber, Deliveroo, etc. Donc, des plateformes aujourd'hui qui sont assez bien connues et assez bien documentées, et dont une des caractéristiques, c'est l'externalisation des coûts sur les travailleurs. Puisque, pour reprendre Uber, c'est les chauffeurs Uber qui doivent payer eux-mêmes la location de leur voiture, l'essence, l'assurance voiture, etc. etc. Et certains ont mis en avant le fait, certains syndicats notamment, craignent que le télétravail, en l'absence d'un cadre de réglementation, puisse être une manière d'ubériser le salariat de l'intérieur. Ce qu'ils entendent par là, c'est justement que l'entreprise continue finalement à se déresponsabiliser et donc à se défaire des devoirs qu'elle est censée avoir, comme par exemple fournir un lieu de travail. Et je pense que là, il y a une révolution un peu idéologique depuis la pandémie. C'est quand même qu'il y a eu quand même cette idée qui s'est généralisée que tout le monde pourrait un jour travailler chez soi sans même sans même avoir un bureau fixe ailleurs.
Et donc, ce serait plus une logique de... On rentre un peu dans une logique de prestataire vis-à-vis des employés et moins une logique de salarié.
Oui, voilà, tout à fait. Donc, ce sont des conséquences. Alors là, je parle vraiment en termes de conséquences potentielles. Hein. Je ne sais pas quelles sont là maintenant, aujourd'hui, mais je crois qu'il y a aussi des effets à plus long terme qui pourraient aller dans ce sens-là. Et notamment dans des entreprises où ce qu'on appelle en anglais le full remote working, c'est-à-dire vraiment le travail à distance à temps plein, est promu et défendu par les employeurs. Là, je pense que de plus en plus, c'est même la question même du salariat qui peut être remise en question, puisque comme tu dis, les travailleurs peuvent alors juste être vus comme des gens avec qui, enfin des travailleurs qui ont des prestations commerciales, etc., sur certaines missions, et plus comme des vrais salariés, ce qui d'ailleurs existe déjà dans pas mal dans des fragments productifs de l'économie numérique, comme des plateformes de crowdworking, c'est-à-dire vraiment du travail au clic. Et alors l'autre point important que je voulais mettre en avant dans cette étude, c'est, parce que ça me semble quand même assez significatif de ce qui s'est passé, c'est que ces outils digitaux, ce travail à distance, s'est vraiment étendu dans les services publics, que ce soit, comme j'en ai parlé déjà, l'enseignement ou les administrations. Le cas du SPF Finance est assez clair. Les mutuelles, les syndicats aussi, et donc tous des endroits où, en fait, on a vu pendant la pandémie une fermeture des guichets, et aujourd'hui, une situation où, en fait, énormément de ces guichets, soit ne sont pas réouverts, soit sont réouverts, mais conditionnés à des prises de rendez-vous en ligne, et donc où, voilà, le digital reste absolument présent dans le fonctionnement de ces administrations. Et ça, il y a pas mal de... Enfin, il y a en tout cas deux articles dans le numéro qui pointent les effets de cela sur notamment les usagers de ces services.
Notamment l'article de Travail Social en Lutte.
Voilà, du Travail Social en Lutte, donc qui est un collectif de travailleuses et de travailleurs sociaux qui s'est constitué pendant la pandémie, justement pour alerter en fait l'opinion publique sur le fait que cette digitalisation du guichet, ou cette dématérialisation du guichet, on peut dire les deux, en fait était un sacré obstacle pour une série de catégories de la population, un obstacle à faire valoir leurs droits, en fait. Et que donc là, il y avait un vrai problème d'accès à des droits sociaux et donc un vrai problème démocratique. Et l'autre aspect que je trouve intéressant à soulever par rapport à ça, c'est aussi la manière dont l'introduction de ces outils digitaux, qui appartiennent toujours, d'une manière ou d'une autre, à des propriétaires privés, à des GAFAM, mais cela crée aussi des processus de privatisation numérique. Et ça, c'est un concept de deux chercheurs, Gilles Janot et Cotin Marx, qui utilisent ce terme de privatisation numérique pour mettre en avant tous les processus de restriction du domaine public et de confusion de ses frontières avec celles du privé, opérés par les développements technologiques récents. Et donc, typiquement, le fait que parce qu'ils prennent le cas français, mais que des applications comme Doctolib soient utilisées par l'État pour organiser les prises de rendez-vous pour les vaccins, en fait, ça fait directement des intermédiaires privés qui ont accès tout d'un coup à des données privées et qui sont rendues obligatoires par les États et qui opèrent d'une manière ou d'une autre des formes de privatisation, quoi. Et je crois que ce processus de privatisation numérique a été particulièrement évident dans l'enseignement. Et notamment, voilà, moi je connais mieux l'enseignement, enfin le supérieur à l'université, où vraiment pendant la pandémie, il y a eu une imposition unilatérale, sans même d'ailleurs que la délégation syndicale de l'ULB soit concertée, pour que toutes les activités d'enseignement, toutes les activités pédagogiques soient mises en ligne à travers la suite Microsoft Teams, enfin Microsoft Teams, etc. Et en fait, ce sont des... Voilà, je pense qu'il faut considérer ces outils comme le mouvement ouvrier a toujours considéré la nécessité de contrôler des outils de travail, des moyens de production, quoi. Et il y a eu une espèce de... Il n'a pas été possible, je pense, à ce moment-là, de remettre en question l'utilisation de ces outils pour plein de raisons. On était dans l'urgence, etc. Mais qu'à présent, à nouveau, ce sont des outils qui se sont pérennisés, dont l'usage s'est pérennisé. Et je pense que les enjeux critiques que ces outils posent ne sont pas assez visibilisés. Et à l'université, en l'occurrence, bon, il y a de toute façon le fait que... Voilà, et des grosses entreprises comme Microsoft ont vu leur marché avec des universités être multiplié. Mais à nouveau, ça crée aussi toute une série de données. L'enregistrement de toutes ces vidéos de cours en ligne, dont on ne sait pas en fait ce qu'il en est fait. On ne sait pas à quel point ces cours enregistrés sont utilisés par d'autres entreprises pour nourrir les algorithmes ou pour nourrir de l'intelligence artificielle, etc. Donc ça, je crois que c'est vraiment un vrai enjeu très important. En outre, c'est aussi la question de la reproductibilité des cours, c'est-à-dire qu'une fois que ces vidéos existent, et si l'université est propriétaire de ces vidéos, à la limite, on peut se passer des enseignants. Où on peut se passer qu'il y ait des enseignants pour chaque cours. Et comme ça se passe d'ailleurs déjà dans certaines universités, on peut imaginer que ces vidéos suffisent et qu'à côté, il y ait des assistants, voilà, pour encadrer quand même l'apprentissage des étudiants. Mais on pourrait se passer, en fait. Voilà, ça pose cette question-là. Et je crois que là-dessus, il y a aussi pas assez de prudence, je crois.
Permanence critique. Le podcast.
Là, on a parlé de l'enseignement, mais on va se tourner tout doucement vers toi, Pierre, qui travaille donc dans une antenne de la CSC, si on peut dire ça comme ça.
Un service de la CSC. Service de la formation de la CSC et aussi SBL d'éducation permanente, la FEC. Okay.
Et donc, je me demandais comment ce service se positionnait-il par rapport aux outils technologiques dont on parle, donc les GAFAM, et est-ce qu'il y avait une lecture critique qui en était faite en votre sein ? Voilà.
Alors, ce n'est pas des questions qui sont abordées tous les jours dans les entreprises par les travailleurs. Bon, faut être clair, hein, je pense que nos militants, nos délégués syndicaux, ils ont d'abord à améliorer les conditions de travail et de rémunération dans les entreprises. Et donc, ils n'ont pas nécessairement toujours l'idée, tiens, on va questionner l'utilisation de Google dans mon entreprise, parce que c'est devenu quelque chose presque immanent, ça fait partie de l'environnement de l'entreprise, donc on ne se dit pas, tiens, il y a des problèmes avec. Mais, tout de même, je pense qu'on a initié toute une série de réflexions, au sein de la CSC en tout cas, sur l'usage qui est fait des nouvelles technologies, y compris sur l'usage des GAFAM et sur le rôle des GAFAM dans les entreprises et dans l'environnement socio-économique. Et pour ce faire, on a eu tout un congrès national qui a mobilisé quand même des milliers de militants et des délégués, où on les a fait réfléchir sur l'avenir du travail, sur cette technologie et sur les limites qu'on peut en avoir. Je pense que là, le fil rouge de la réflexion, c'était de dire... Nous ne sommes pas contre la technologie, mais il faut que les travailleurs reprennent le pouvoir sur la technologie. Et ça vaut aussi, évidemment, pour les GAFAM. Parce que les GAFAM, il y a plusieurs enjeux derrière. Il y a aussi un enjeu de fiscalité. C'est des entreprises qui payent très peu d'impôts, voire pas du tout. Donc, il faut pouvoir aussi extraire la richesse qui est produite par ces entreprises pour la faire bénéficier aussi aux travailleurs belges, parce que ils opèrent sur notre territoire. Donc, pourquoi est-ce qu'ils ne paieraient pas d'impôts? Il y a des enjeux, évidemment, sociaux, parce que, comme Cécile l'a illustré, ces nouvelles technologies ont permis l'essor de travail à distance et de ce fait de travailleurs qui opèrent sans aucun contrôle, qui opèrent les travailleurs de la foule, hein, les crowd workers. C'est vrai que c'est un problème qui, s'il est amené à être généralisé, peut être potentiellement inquiétant. Pourquoi est-ce qu'un employeur ferait appel à un service communication quand, à l'autre bout du monde, il peut demander un site internet à un Philippin qui va le faire pour $2 de l'heure? Pourquoi est-ce qu'il aurait besoin d'un comptable alors qu'il pourrait sous-traiter ça à l'autre bout du monde par une boîte de comptables? Ça vaut pour les call centers, c'est déjà le cas. On sent bien ici que, avec l'introduction des nouvelles technologies, il y a un contrôle à faire sur la chaîne de valeur de l'entreprise. Surtout pour les grosses entreprises où on sent bien qu'il y a un enjeu pour eux à avoir de moins en moins d'obligations vis-à-vis de leurs travailleurs. Donc nous, en tant que syndicat, c'est clair que tout notre combat a toujours été celui de permettre aux travailleurs de vivre correctement et donc d'avoir toute une série de protections liées à leur statut de travail. On voit bien qu'on est en train de disrupter ça, parfois au nom de l'innovation. Moi, je pense qu'on n'est pas trop dans une révolution technologique, en fait. On est juste dans la perpétuation d'un capitalisme qui va chercher à gratter la moindre parcelle de productivité, et la nouvelle ruée vers l'or, c'est effectivement l'exploitation des travailleurs dans le monde, l'exploitation des travailleurs sans patron, et aussi l'exploitation des données personnelles. Et donc face à ça, les syndicats commencent à voir qu'il y a un problème, mais voilà, je vais dire que de manière pragmatique, on doit pouvoir aussi choisir ses combats. Donc, moi qui travaille dans le domaine de la formation au sein de mon syndicat, on n'a pas beaucoup de jours de formation à consacrer aux nouvelles technologies pour les nouveaux délégués. On essaye de les sensibiliser davantage à leurs conditions de travail de leur entreprise. Donc, eux-mêmes cherchent à avoir davantage de leviers dans ce qu'ils peuvent faire concrètement pour améliorer leurs conditions de travail. Ça passe peut-être par un meilleur contrôle de ces outils numériques, ça passe peut-être par un meilleur contrôle du télétravail, donc c'est leur apprendre à réfléchir de manière collective face à des situations individuelles. Hein. Donc on va penser que le télétravail, c'est quelque chose qui concerne chaque travailleur, mais en fait, ça concerne toute l'entreprise. Donc il faut réfléchir en termes collectifs avant tout. C'est pour ça que, voilà, une des premières préconisations face au télétravail, c'est d'abord de se concerter collectivement et donc de passer par la concertation sociale. Je pense qu'il y a des outils en fait qui doivent être mobilisés, qui existent déjà. Et nous, c'est notre rôle en tant que formateurs de rappeler déjà tout ce qui existe, la législation, la protection des données, donc l'utilisation des nouvelles technologies de l'entreprise. Tout ça est déjà quelque part écrit dans certaines conventions collectives de travail qu'il s'agit de réactiver en fait pour permettre aux travailleurs de gagner en autonomie et de peut-être créer un rapport de force dans l'entreprise ou une réflexion auprès de l'employeur sur l'utilisation des technologies, sur leur pertinence, sur leur coût, en matière de santé au travail. Parce que ça aussi, on l'a tous vécu dans notre chair, le télétravail, ça n'est pas le monde des bisounours. Il y a des gens qui l'ont très mal vécu et il y a des conséquences très fortes aussi. Ça, on y reviendra sans doute plus tard.
Ouais.
Moi, je voulais terminer sur l'usage des technologies pour rebondir sur ce que disait Cécile par rapport aux données dans les services publics aussi. Je pense qu'effectivement, on a aujourd'hui des rapports très clairs de plein d'universités, plein de chercheurs qui nous disent attention, fracture numérique, attention, il faut être attentif à garantir un accueil, etc. Et on constate quand même que dans la plupart des services publics, ou non marchands, on fonce là-dedans. Mais pourquoi ? Parce que c'est moins cher, hein ? Parce que ça permet des optimisations de travailleurs, en fait. Et donc, il y a un enjeu fondamental pour moi, surtout par rapport au public plus fragilisé, hein, et, mais pas que, pas que. Et donc, il y a un tout au numérique qui est vendu comme tout à l'innovation. Je pense qu'il faut sortir un peu du discours manichéen, comme quoi soit on est pour la technologie, pour le numérique, et on est stupide, soit on est contre, et alors on est dans un dangereux conservateur, ou je ne sais pas, qui veut vivre dans une grotte avec une flamme. Donc il y a un juste milieu à trouver dans cet usage-là, et je pense que dans les services publics en tout cas, moi quand j'entends il y a un nouveau contrat de gestion au Forem, en région Wallonne, pour les demandeurs d'emploi, il y en a quand même beaucoup d'éléments dedans qui vont vers du tout au numérique. Or, on sait que les demandeurs d'emploi sont plus fragiles par rapport à l'usage du numérique. Parce que le sujet, c'est pas la fracture numérique, mais il y a quand même des usages qui... C'est pas parce qu'on a un smartphone qu'on sait se débrouiller, quoi. Et donc, je pense que là, il y a un peu une sorte de fuite en avant et du public et du privé vers le tout numérique, c'est clair.
Tout à fait. Bon, on peut ramener les chiffres du dernier baromètre de la Fondation Roi Baudouin qui dit de tête 47% de la population en situation de vulnérabilité numérique. Donc voilà, c'est assez contradictoire avec cette fuite effectivement en avant, comme tu l'appelles. On peut peut-être passer à ma deuxième question pour toi, Cécile. Donc, je vais revenir au télétravail. Donc, tu parles d'un attrait paradoxal pour le télétravail. Est-ce que tu pourrais en parler un peu plus ?
Oui. J'ai voulu mettre ça en évidence parce que je crois que critiquer le télétravail est quelque chose en fait d'assez complexe. Justement parce que, en fait, énormément de travailleurs aujourd'hui souhaitent faire du télétravail. Donc ce serait faux de voir le télétravail uniquement comme une stratégie des employeurs pour réduire des coûts. En réalité, depuis la pandémie, il y a énormément de travailleurs, de travailleuses qui aiment le faire, même si, voilà, comme disait Pierre, ça n'a pas été une expérience positive pour tout le monde, mais il y a quand même globalement un attrait pour ça, en tout cas pour que se maintiennent pas en télétravail à temps plein en général, mais plutôt un jour ou deux de télétravail par semaine. Alors, je crois qu'il y a énormément de bonnes raisons, en fait, individuelles, pour que les travailleurs adhèrent au télétravail. Il y en a plein, et je pense que globalement, le télétravail est vu, en fait, comme une solution à plein de problèmes qui préexistaient avant la pandémie dans les milieux du travail et qui sont évidemment très nombreux. Des problèmes de souffrance au travail, des problèmes de perte de sens au travail, des problèmes de burn-out, d'autres maladies professionnelles, ou simplement ce qui est lié au travail, comme les temps de déplacement entre le domicile et le lieu de travail. Ce qui pose aussi la question plus générale de la qualité de vie, en fait, des travailleurs. Lorsque le logement devient inabordable en ville, les gens déménagent et vont en périphérie et sont alors amenés à augmenter, en fait, leur temps pour se rendre au travail. Et tout ça crée des situations souvent pénibles, que ce soit des embouteillages ou les trains qui n'arrivent jamais à l'heure, etc., etc. Et donc, voilà, ce que je voulais mettre en avant, c'était que finalement, le télétravail semble d'autant plus attrayant que les conditions de vie, les conditions de travail et d'existence en présentiel sont pénibles en réalité, quoi. Et donc tout ça, c'est logique, c'est normal. C'est logique d'un point de vue individuel. Et c'est pour ça que j'appelle cela un attrait paradoxal, parce que je pense que, par contre, au niveau collectif, le télétravail ne va pas amener en réalité un vrai progrès social. Et cela pour plein de raisons différentes. On a parlé du cas particulier du télétravail dans les administrations, qui en fait est plutôt une régression pour les usagers de ces administrations. voilà, avec la fermeture des guichets, etc. Le télétravail en soi est une forme d'emploi qui est plus flexible, en fait. C'est vraiment comme ça qu'il est présenté dans la littérature. Le télétravail est une forme flexible d'emploi puisque, par définition, il implique que le travail puisse se réaliser au-delà des horaires et des lieux de travail habituels, classiques. Et donc, cela rend possible le travail à domicile, enfin, les heures supplémentaires chez soi. Cela rend possible, voilà, une augmentation, voilà. En fait, une flexibilisation accrue, alors que justement, c'est peut-être à cause déjà de cette flexibilité préexistante que le travail semble attirant. Et très clairement, sans protection collective ou sans réglementation collective du télétravail, ben, cela ouvre à une augmentation du travail à domicile, ou cela ouvre même, je pense, à l'idée pour tout le monde qu'on peut cumuler des formes de travail. On pourrait cumuler un emploi salarié et du crowd work en rentrant chez soi. Voilà, et même je pense que les enfants qui, pendant la pandémie, ont vu leurs parents travailler en télétravail, ça a aussi inculqué une certaine idée de, finalement, de chaque coin de la maison peut être un lieu où on travaille. Et donc, quand même, je crois qu'il y a quand même cette idée qui sous-tend le télétravail, ou en tout cas un certain usage du télétravail, qui est cette idée d'un travail illimité, en fait. Ou d'un travail qui pourrait se réaliser en toutes circonstances, y compris pendant une pandémie où en fait, normalement, voilà, les gens étaient contraints à l'immobilité. Et,
on dépasse, en fait, un peu le cadre salarial classique qu'on a hérité, quoi.
Voilà, je pense que c'est vraiment ça. Et je crois que, par exemple, il y a un mythe lié au télétravail qui est que le télétravail serait écologique. Et Fanny Lederlin, qui est une des contributrices de ce numéro, elle a mis en avant une idée que je trouve intéressante, c'est que le télétravail ne peut pas être écologique dans la mesure où, justement, il rend possible un productivisme illimité. Il rend possible de continuer à être productif, que ce soit chez soi, sur une île, etc. Voilà. Et alors, ce qui est aussi, je pense, voilà, paradoxal ou ambivalent, c'est que d'une certaine manière, je pense que l'attrait du télétravail exprime une certaine critique du travail, voilà, des souffrances du travail, etc. À nouveau, là aussi, Fanny Lederlin, elle en parle dans ce numéro, en faisant le parallèle entre cet attrait pour le télétravail et, par exemple, la grande démission, enfin, ce phénomène de grande démission qu'on a beaucoup entendu. Très massif aux États-Unis, au Canada, en Europe, je sais moins, et où voilà, plein de gens ont démissionné de leur travail. Et voilà, et là, je crois qu'il y a une critique individuelle du travail qui se retrouve dans cette grande démission, qui se retrouve dans ce désir de faire du télétravail, et qui est très différente d'une émancipation collective par le travail. Elle utilise cette distinction que je trouve assez pertinente, quoi. Une distinction entre une volonté de s'émanciper individuellement de son propre travail, en le mettant à distance, voilà, et de l'autre côté, une pensée de l'émancipation plus collective, en s'émancipant par le travail, c'est-à-dire en prenant le travail comme un objet de lutte, comme une activité sociale à améliorer collectivement.
Voilà. C'est un peu, on revient un peu à ce que Pierre disait tout à l'heure, en fait. Donc, la nécessité de collectiviser tout ce qui est en rapport avec le télétravail en entreprise. Je vais me tourner vers toi, Pierre. Est-ce que le télétravail n'est pas un sujet paradoxal pour les organisations syndicales aussi ?
Oh bah, il y a des choses bien et des choses moins bien dans le télétravail, ça c'est très clair. Donc, c'est plutôt une réflexion personnelle, mais j'ai l'impression qu'il y a une mise à distance du travail, par la pandémie, et donc par le télétravail, qui peut-être a fait du bien à certains, parce qu'ils se sont dit, bon, en fait, je surinvestis sans doute un peu trop mon travail, donc j'apprécie d'avoir du télétravail parce qu'il y a une flexibilité, et parce que je décide aussi, peut-être, alors là, qu'il faut des balises très claires, que le travail s'arrête à l'heure où il doit s'arrêter. Mais je pense aussi à tous les gens qui font des navettes, etc., ils sont pas prêts à renoncer à ce que deux jours on les envoie à Bruxelles faire une heure et demie d'embouteillage pour aller travailler alors qu'ils pourraient s'occuper de leurs enfants, ils pourraient faire autre chose. tout en étant dans leur maison, en travaillant toujours de manière relativement productive, parce qu'en fait, quand on est chez soi, on est au calme et on travaille peut-être même mieux par certains aspects. Mais je pense que c'est pour ça, ce qui est un peu paradoxal, c'est que je pense qu'il y a des aspects positifs et qu'il ne faut pas jeter l'eau avec le bébé. Non. Avec l'eau du bain, je ne sais plus.
Jeter le bébé avec l'eau du bain.
Jeter le bébé avec l'eau du bain, parce que moi, il me semble que pour une série de gens, en tout cas, ça a permis peut-être de se rendre compte qu'on peut aussi faire du bon travail, un autre type de travail, peut-être pas un travail collectif, mais un travail plus intellectuel. Voilà, on ne parle pas de tous les travailleurs non plus. Faut se rappeler que pendant la pandémie, il y a quand même toute une série de travailleurs qui ne savaient pas faire du télétravail avec leur bétonneuse. Hein. Donc, on a quand même des gens, je pense, et c'est légitime, des travailleurs qui veulent plus de télétravail. Je pense que c'est à nous, syndicats, d'accepter cette forme de travail comme une forme de travail comme une autre au sein du contrat de travail, donc de le baliser de manière la plus claire possible pour que, justement, il n'y ait pas un débordement entre la vie privée et la vie professionnelle, que donc l'employeur se rende compte que, les horaires de travail doivent être respectés. Et donc, de ce fait-là, c'est toujours mieux quand on arrive à avoir non pas une charte, mais vraiment une convention collective de travail qui fixe très clairement les limites, le nombre de jours par contrat, le lieu de travail qui permet justement que la législation sur les accidents de travail puisse s'appliquer, etc., etc. Donc je pense que quand c'est balisé, le télétravail n'a pas que des défauts. Maintenant, c'est clair que pour nous, d'un point de vue syndical, sur l'organisation des travailleurs qui sont isolés les uns des autres, évidemment c'est un sacré défi. Mais c'est pas un défi nouveau, parce qu'on a toujours eu des délégués, on les appelle des délégués camionnettes, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas sur chantier avec les autres gens, et pour qui c'est difficile de récolter un peu la parole des uns et des autres pour savoir ce qui ne va pas dans leur boulot. On peut penser aussi aux travailleuses des titres service, qui sont chacune chez le client et qui ne se voient quasiment jamais, donc pour lesquelles il a fallu réinventer une forme de syndicalisme de réseau, peut-être en utilisant des outils numériques d'ailleurs, pour justement essayer de créer ce sentiment collectif d'appartenance à une même entreprise, et donc à redéfinir les limites de ce qu'on veut faire dans notre travail, etc. Donc là, je pense que c'est pas un enjeu si nouveau que ça, le télétravail, mais c'est sûr que pendant la pandémie, en tout cas, nous, on a vécu des situations ubuesques, avec des conseils d'entreprise qui se tenaient par Teams, si l'employeur, à un moment donné, il n'a pas aimé une réflexion d'un syndicaliste, il décide de quitter la réunion, il fait juste, il clique sur quitter la réunion, et voilà, on se retrouve avec une absence de dialogue, là, pour le coup. Et donc, il y a des freins très physiques et très concrets à l'action collective en réseau. Et on peut aussi penser à des piquets de grève, etc. Si on peut mettre tout le monde en télétravail quand c'est la grève, les gens, comment est-ce qu'ils vont, enfin, ils pourront toujours travailler de chez eux, en fait. Donc, on contourne le droit de grève. Donc, il y a ces enjeux-là qu'il faut pas sous-estimer. Voilà, c'est une question intéressante parce qu'elle permet de tirer d'autres fils. Mais très concrètement, aujourd'hui, le télétravail, pour nous, n'est problématique que quand il n'est pas concerté, quand il n'est pas organisé, quand il n'est pas balisé par les autres travailleurs, par tout le monde. Si c'est une démarche individuelle à la tête du client, là c'est clair, c'est la porte ouverte à tous les abus, parce que ça va être de la négociation avec « Ah, lui je sais que je peux le contrôler assez facilement, elle, je préfère qu'elle vienne quand même ». Voilà, ou c'est même sur du ressenti. Ça va être l'employeur qui va dire « Ah non, lui, je vais le faire chier, il va venir tous les jours. »
Ok. Est-ce qu'on pourrait peut-être commencer à conclure? Est-ce que tu as quelque chose à dire pour terminer, Cécile?
C'est peut-être insister sur ce que Pierre a déjà souligné, mais ça me semble vraiment indispensable que les syndicats prennent vraiment en main cette question du contrôle sur ces outils digitaux, effectivement. Parce que cela va devenir des outils, enfin, ce sont déjà des outils qui sont absolument indispensables dans l'organisation du travail. Et selon moi, ce ne sont justement pas des outils technologiques comme les autres. pour toutes les raisons qu'on a mises en avant dans l'émission, c'est-à-dire qu'il y a des nouvelles formes d'exploitation qui sont introduites par ces outils, comme l'exploitation des données. Et cela crée des nouveaux marchés, cela crée des nouvelles formes de domination sur les individus, sur la vie des individus, sur ce qu'ils pensent, ce qu'ils vivent, etc. Et même sur la manière dont ils travaillent et sur la manière dont on peut les mettre au travail. Et donc, voilà, il y a cette idée, je pense, qui est très importante, de voir ces outils numériques comme en soi des objets de lutte, en fait. Bien sûr, ils peuvent être utilisés pour faciliter la lutte. Hein, voilà, les groupes WhatsApp qui sont utilisés pour fixer des assemblées générales, etc. etc. Mais je crois que ce sont aussi des objets de lutte en tant que tels. Et ça me semble très important de vraiment réfléchir à, tiens, quel contrôle on peut avoir en fait sur un algorithme. Quel contrôle on peut avoir sur l'utilisation des données. Est-ce que ces données peuvent être utilisées à des fins publiques plutôt qu'à des fins privées. Voilà. Et ça, je pense qu'il est vraiment urgent, en fait, de discuter ces questions-là avec les organisations syndicales et que ce soit avec des délégués de terrain ou avec des formateurs.
Voilà. Un dernier mot, Pierre ?
Oui, juste pour rappeler que donc, nous, dans nos formations syndicales, on aborde les nouvelles technologies à plusieurs endroits. Parce que je ne pense pas l'avoir précisé. Dans les formations Conseil d'entreprise, justement, on met l'accent sur les espaces de travail. C'est-à-dire qu'on fait toute une formation sur les risques et les opportunités des différents espaces de travail, que ce soit le travail sur des plateaux ou que ce soit justement le télétravail. Il y a des enjeux positifs et négatifs à sensibiliser nos délégués. Au niveau du CPPT, donc du Comité de Prévention de Protection au Travail, on fait des formations sur les risques psychosociaux liés à l'introduction des nouvelles technologies. Je pense que c'est hyper important parce que on a de plus en plus de stress au travail et donc les gens qui sont en burn-out, ça explose complètement. Donc il y a de plus en plus de gens qui sont hyper stressés et on pense que quand même l'introduction des nouvelles technologies n'y est pas complètement étranger. Donc il faut pouvoir avoir un regard nuancé sur l'introduction des nouvelles technologies. C'est pour ça aussi qu'au niveau syndical, toujours lors de ce congrès sur l'avenir du travail en 2019, nous, on insistait sur le fait qu'il existe déjà des outils qui doivent sans doute être remobilisés par les travailleurs, qui est notamment la CCT 39. Alors, c'est un petit peu du jargon, mais c'est une convention collective de travail qui dit qu'à chaque innovation technologique qui aura un impact sur les conditions de travail des travailleurs, les travailleurs doivent en être informés dans la concertation sociale avant l'introduction de cette nouvelle technologie et doivent pouvoir contrôler justement cette technologie, son impact, pouvoir l'évaluer, être en fait des acteurs dans l'entreprise de l'introduction de ces nouvelles technologies parce qu'elles ont un impact sur leur travail. Je pense que c'est hyper important que les travailleurs puissent mobiliser ces outils-là et commencer par là. C'est-à-dire que quand on aura la main en tant que travailleur sur ce qu'on fait, on pourra peut-être alors aller un pas plus loin et réfléchir à qu'est-ce qu'on produit, pourquoi on le produit, à qui on vend, à quoi ça sert, est-ce que c'est éthique, est-ce que c'est social, est-ce que c'est écologique. Donc je pense que c'est un bon outil pour... Enfin, la concertation sociale est un bon outil pour commencer à réfléchir à notre manière de produire. Et si ça doit passer d'abord par les conditions de travail, ben c'est un premier fil à dénouer pour ensuite aller chercher le pourquoi du comment. Parce que je ne vais pas vous mentir, c'est pas tous les jours qu'on discute avec nos délégués en entreprise des innovations technologiques, de l'emprise des GAFAM sur leurs conditions de vie ou sur le mode de vie capitaliste. On est plus sur des combats plus concrets sur comment est-ce qu'on va mieux travailler demain. Et donc si c'est déjà avec les outils, c'est questionner pourquoi est-ce qu'on utilise tel outil plutôt qu'un autre. Pourquoi est-ce qu'on utilise la suite Office plutôt qu'un logiciel open source? Donc c'est toutes ces questions-là que nous, on incite les travailleurs à se poser. Et de cette manière-là, on peut sans doute initier d'autres réflexions sur la finalité de notre travail et la finalité de notre travail en tant que producteur de richesse aussi, parce que on a tendance à l'oublier, mais ce sont les travailleurs qui font tourner les entreprises et pas les actionnaires.
Merci beaucoup à tous les deux.
Très beau mot de la fin.
Ouais, superbe, je trouve aussi. Mmh.
Ce podcast est soutenu par Radio Panique et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes, nos réseaux et sur notre site arc-culture.be.